France Inter.
Bonne année à tous. La première heure de l'heure bleue sera musicale et pop. Savez-vous ce que ça veut dire pop? Eh ben, vous l'apprendrez tout à l'heure grâce à Dominica et Agnès Guéraud. Dominica, le chanteur qu'on ne présente plus, et Agnès Guéraud qui est à la fois musicienne, chanteuse sous le nom de La Féline, mais qui est aussi philosophe et auteur d'un livre magnifique qui s'intitule « Dialectique de la pop ». Mais comme chaque soir, et en particulier le 1er janvier, pour que vous ne perdiez pas vos bonnes habitudes de la veille, eh bien, montez le son, car on va commencer en musique avec Philippe Catherine, Louxor, j'adore.
Administratrices, dessinatrices, les boulangers, les camionneurs, les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation, les chirurgiens, les mécaniciens, les chômeurs. J'adore regarder danser les gens et de temps en et je remets le son. Je coupe le son. Je remets le son. Et je recoupe le son. Et attention. Je remets le son. Encercler, et là je me sens en danger, alors je leur dis prenez-moi, faites de moi n'importe quoi, pendez-moi la tête en bas comme la dernière fois. J'adore regarder danser les gens, ah je trouve ça fascinant, au bar du Louxor, regarder danser les gens. J'adore, 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 j'adore. Et je coupe le son. Et je remets le son. Et je recoupe le son. Je remets le son.
Et c'est avec Philippe Catherine, Louxor, j'adore, que nous allons commencer l'année. Merci à Agnès Guéraud et Dominique A d'avoir accepté cette difficile tâche de bien commencer l'année. Louxor, vous adorez aussi, Philippe Catherine aussi,
oui, Dominique A. Oui, de longue date. Oui, cette chanson, c'est des souvenirs aussi avec Miossec, auquel j'avais fait écouter. Il avait eu la primeur du disque. Enfin, on avait passé une soirée avec ce titre-là, quoi. Donc, c'est des souvenirs. Puis bon, Philippe, c'est tellement de... C'est pas que des souvenirs, c'est du vivant.
Je monte le son. Ça veut dire quoi, monter le son, Agnès Guéraud?
Bah, c'est la base. C'est la base de l'émotion liée à la musique populaire, enregistrée, cette possibilité qu'on a de faire monter les décibels sur un enregistrement donné et d'écouter voilà, aussi fort que possible dans sa voiture, dans son salon, dans une soirée. C'est ça, l'ubiquité folle de cette musique enregistrée.
Alors ça résonne où et comment, le son, pour vous ?
Oh bah, c'est marrant quand vous me dites ça, ça me rappelle quand j'allais à Normal Sup là, il y a plusieurs années maintenant, il y a rue de la Baie de l'Épée, il y a un centre pour les sourds muets, et en fait de temps en temps, ils faisaient des sortes de fêtes, et c'était uniquement les vibrations. En fait, il y avait le son à fond. On se disait, mais c'est absurde, c'est des sons muets. Mais non, il y avait cette vibration. Donc voilà, je dirais que l'essentiel, c'est la vibration. Et on la retrouve dans des très beaux morceaux comme ceux des Beach Boys, par exemple.
Pas mal, les Beach Boys aussi, pour commencer l'année, n'est-ce pas, Dominique?
Oui, je souscris encore. Hein. Je souscris à tout, moi, en début d'année, je souscris à tout.
Alors, si je vous ai réunis en ce début d'année, c'est parce que la musique tient une place prépondérante dans nos existences et qu'elle remplit l'espace, elle remplit notre être intérieur. Agnès Guéraud, vous êtes philosophe, vous êtes normalienne, vous avez publié plusieurs livres, dont un en début d'année dernière qui a beaucoup fait parler de lui et qui s'intitule « Dialectique de la pop ». Vous, Dominique A, on ne vous présente plus, mais je voulais savoir ce que la musique représente pour vous et représentait pour vous depuis la plus haute enfance. Tout à l'heure, Agnès disait la vibration du son. Les premiers sons pour vous, Dominique A?
Alors, les premiers sons qui me viennent à l'esprit, ce sont des sons de générique, de générique de ORTF. Et ce sont des accords mineurs, en fait. C'est ça qui me vient en premier lieu. Et j'ai l'impression que je me suis raccroché à ces accords mineurs très, très jeune pour passer l'existence.
Passer à travers l'existence, non, ou pour passer le temps de l'existence?
Passer le temps de l'existence. Non, passer à travers. Non. Ça a eu un effet sur moi. Je me rappelle, des séries bien particulières, L'île mystérieuse. Et quand je les ai redécouvertes il y a quelques années, en allant glaner sur Internet, justement, ces musiques que j'avais pas écoutées depuis belle lurette, j'étais frappé par leur tristesse, en fait, par la mélancolie. Et donc, je sais pas pourquoi, tout jeune, j'ai été happé par ça, en fait. Mais ça a perduré.
Passer le temps, traverser le temps, passer du temps, faire oublier le temps. En tout cas, la musique, elle occupe une place particulière par rapport à notre propre perception du temps, Agnès Guéraud. Et vous, vos premiers émois en musique?
Ils sont aussi très liés à l'enfance, à la toute petite enfance. J'ai une mère andalouse qui m'a toujours chanté des chansons. Donc j'imagine qu'il y a un souvenir de sa voix qui résonne encore. Et puis le souvenir aussi, je me rends compte, là je viens d'avoir un petit garçon, je me rends compte qu'il est très sensible au bruit du sèche-cheveux, par exemple. Et qu'à l'intérieur du ventre maternel, il y a des bruits blancs. Et il y a ces sons, en fait, là encore, on revient à l'idée de la vibration, mais presque en deçà de l'idée de note, de sonorité comme ça harmonieuse. Il y a le son, quoi, ces bruits, cette intensité sonore comme ça, cet environnement qui nous enveloppe et qui est en fait quelque chose de très doux, presque encore plus doux qu'une comptine, que celle qu'on pourrait chanter après.
Lui avez-vous chanté des chansons quand il était dans votre ventre à ce petit bébé?
Bien sûr. Alors là, je me suis régalée. J'en ai composé des nouvelles, j'ai écrit pour lui. Donc oui, c'est une expérience tout à fait musicale dès le départ. Pour moi, en tout cas, j'espère que ça le sera pour lui.
Vous êtes tous les deux musiciens, vous êtes tous les deux artistes. Agnès Guéraud, ça c'est votre nom dans le code civil, dans la vie sociale, mais dans la vie artistique, vous êtes la Féline. Dominique A, on connaît son nom, puisque vous ne l'avez pas caché à l'intérieur des deux livres que vous avez publiés. Mais Dominique A, c'est votre nom de scène. Pensiez-vous, quand vous étiez enfant, qu'un jour vous seriez sous les lumières? Et dans les lumières?
Non, je pensais pas à ça. Non, sincèrement. Alors évidemment, j'avais des rêves par rapport à ça, mais j'arrivais pas à me projeter. Non, c'était pour moi ce qui est arrivé relevait de la fantasmagorie, en fait. C'était pas du tout j'avais pas l'impression d'avoir une bonne étoile au-dessus de ma tête qui me conduirait ça et là. Ça a été, je crois, beaucoup tout simplement aussi au-delà même de ce qu'on vit et qui fait qu'on développe une créativité, je crois tout simplement à la rencontre qui va permettre à cette créativité de s'exprimer, parce qu'il y a des tas de gens dont la créativité est finalement est bafouée, j'ai envie de dire.
Chacun d'entre nous en possède.
Oui,
elle n'est pas toujours révélée.
Tout à fait.
À quelle occasion s'est-elle révélée, la vôtre, Dominika?
La mienne s'est révélée, en tout cas, le fait d'avoir une activité publique, c'est-à-dire, je dirais que je ne me souviens plus des premières chansons, quasiment, je m'en souviens pas, parce que j'ai toujours l'impression d'avoir, en quelque sorte, composé avant même de savoir écrire. Toujours l'impression d'avoir eu des musiques dans ma tête et des mots qui tournaient. Et après, je dirais que le fait d'avoir rencontré, je vais avoir 20, 21 ans, quelqu'un qui s'appelait, enfin qui s'appelle toujours, que je n'ai pas vu depuis longtemps, Vincent Chauvier, qui montait son label Lithium. Cette rencontre-là était déterminante parce que sans si j'avais pas croisé son chemin, j'étais pas dans une dynamique cherchant un label, cherchant absolument à me faire connaître. J'étais dans mon coin à faire de la musique pour mes amis, et c'est lui qui est venu me chercher. Donc là, il y a vraiment eu une rencontre qui a changé la donne complètement.
Et vous, Agnès Guéraud, est-ce la lecture du philosophe Théodore Adorno qui a changé la donne ?
Qui a changé la donne peut-être pour ce travail philosophique que j'ai publié, oui, Dialectique de la pop, parce que...
Et pour comprendre la musique et l'importance de la musique dans nos existences.
Oui, et en fait, d'avoir travaillé si longtemps sur cet auteur, parce que j'ai fait une thèse sur autre chose que sur la musique populaire, mais à propos de cet auteur... Et je faisais la thèse tout en écrivant des chansons et en étant complètement amoureuse de cette musique. Et je devenais, voilà, ça dédoublait mon esprit d'une manière presque problématique. Et donc, ça, sans doute que cette rencontre, entre guillemets, avec Adorno, qui est quand même aussi quelqu'un d'une grande intelligence, c'est extrêmement stimulant comme pensée, tout en étant très radical et parfois excessif, et parfois, bon, il a l'air d'un con quand il parle de jazz, mais en fait, pour certains, mais bon, il y a des choses finalement très profondes. Et donc, c'est une rencontre qui a peut-être fait que c'est devenu presque une mission pour moi d'écrire ce livre, même si c'est... Tout le monde s'en fout ou peut s'en foutre, mais moi, à un moment donné, je vivais à travers cette pensée et en même temps, je vivais tout autre chose et il fallait à un moment que je formule ça, quoi. Donc c'est devenu une espèce de nécessité proche de celle que j'éprouve quand j'essaye de faire des disques.
Alors, évoquons le souvenir de Théodore Adorno. Théodore Adorno était un philosophe d'origine allemande. Il appartenait à l'école de Francfort. Il était proche de philosophes comme Walter Benjamin, par exemple. Vous avez dit que de temps en temps, il émettait des thèses de cons. Il faut essayer d'expliquer à nos auditeurs. Et c'est peut-être pour ça que vous avez fait ce travail remarquable, Dialectique de la pop. C'est parce qu'il pensait, et d'ailleurs il y a certaines thèses de Walter Benjamin où ils se rejoignent tous deux, que les musiques populaires n'étaient pas vraiment l'expression du peuple. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi et comment, Agnès Guéraud ?
Oui, il faut voir que ce sont des gens qui émergent, enfin dont la pensée émerge dans les années 30. Et les années 30 en Europe, c'est le nazisme, le fascisme, et c'est-à-dire des formes d'expression politique qui sont liées à l'industrie de la communication, à la propagande. Et ce qui se passe, c'est qu'en fait, c'est plutôt l'idée de la masse qui l'emporte, l'idée d'un art de masse. Alors il y a tout, justement, des gens comme Benjamin sont des gens qui essaient de trouver un espoir dans l'idée de la masse, enfin qui sont un petit peu ambivalents à ce propos, mais ou des gens comme Bloch aussi, ils essaient de, parce qu'ils sont communistes, donc il faut arriver à comprendre cette nouvelle figure du peuple qui est la masse. Et pour Adorno, la masse c'est tout de suite au contraire quelque chose de totalement dystopique, c'est tout de suite une espèce de trahison de l'idée de peuple, et ça ne représente en fait que le système industriel en train de se renforcer lui-même. Donc, il faut voir que quand il dit des choses très méprisantes sur l'industrie culturelle, il faut jamais lire ça comme une façon de mépriser les individus. démocratique, mais comme une façon de dénoncer systématiquement l'imbécilité qu'impose le système aux individus, qui en fait ne sont pas abusés, mais sont mal représentés, mal. Et donc la musique populaire légère telle qu'il l'entend à l'époque à la radio, c'est le système en train de se reproduire lui-même, et un peu comme à la manière d'une photocopieuse, enfin quand on photocopie une image, elle est de plus en plus floue, ou enfin, moins en moins précise, on va dire, et c'est un petit peu pareil pour Adorno, la musique que produit l'industrie, selon lui, ne produit que des photocopies infinies de formules comme ça populaires et qui sont de plus en plus mauvaises, quoi, de plus en plus faibles. Donc, bien sûr, on a envie, c'est ce que j'ai eu envie de faire, de convoquer aussi toute cette histoire de la musique populaire, au contraire extrêmement riche et avec d'autres ressources, y compris une ressource autocritique qui est fascinante. Pour montrer voilà comment à la fois il y avait cette espèce de fléau comme ça sur la musique populaire légère au XXe siècle qui est liée à l'industrialisation et en même temps c'est sa condition à cette musique, le fait que l'industrie phonographique se soit déployée. Donc je pourrais en développer longtemps.
Non, mais c'est très intéressant de parler de ces sujets et de ces problématiques dans un temps où la mondialisation ne cesse de tisser ses filets. Et où la musique qu'on entend est aussi, elle, mondialisée, fabriquée. Theodor Adorno était proche aussi de Hannah Arendt. Hannah Arendt a publié au tout début des années 60 un livre qui s'intitule « La crise de la culture ». Et de la même manière que Theodor Adorno, dans sa critique d'une certaine expression de la musique dite populaire, elle stigmatisait aussi les moyens qu'avaient justement les grands industriels, propriétaires soi-disant d'une idée de la culture de masse, pour nous faire avaler non pas la culture, mais une sorte de substitution de la culture et d'industrialisation de la culture. Et je crois personnellement qu'en 2019, on arrive à une ère où justement toutes ces philosophies sont intéressantes à relire à l'aune de notre propre modernité, depuis cette espèce de rouage de compresseuse de la mondialisation qui a l'air de nous faire avaler quelquefois des substituts de culture que nous prenons pour de la culture. Dominica, qu'en pensez-vous ?
Votre intelligence m'ébahit, c'est-à-dire
non,
que...
Non, mais c'est une question sur le... Qu'est-ce qui est populaire ? Ce qui est populaire, est-ce que c'est l'expression du peuple ? Qu'est-ce que l'expression du peuple ? Qu'est-ce qu'une musique populaire ? Qu'est-ce qu'une culture populaire ?
Vous m'en demandez trop, sincèrement.
Vous êtes un chanteur populaire ?
Oui, mais le fait de pratiquer...
Vous l'avez pas voulu, mais c'est comme ça ?
J'ai fait en sorte quand même que ça perdure un petit peu.
Comment ça, vous avez fait en sorte ?
À partir du moment où il y a j'ai eu une existence publique en tant que musicien, j'ai pris conscience de la chance qui m'était donnée, tout simplement.
Mais vous n'avez pas recherché le succès, vous avez travaillé, puis le succès tout d'un coup il arrivait, puis il refluait, puis réapparaissait.
Mais après, quand on fait des chansons, quand on fait de la pop au sens où Agnès Guiraud l'entend, on va à la recherche du succès aussi, on va à la recherche des gens, on va à la recherche du plus petit dénominateur commun. Pour aller vers les gens, quoi, et de ce qu'on a en soi qui serait le plus recevable. Il faut pas se le cacher. Il y a des moments où il y a aussi une pression autour de soi où on vous dit voilà, ce serait bien qu'il y ait des portes d'entrée dans un disque, par exemple.
Que ça soit plus facile.
Ouais.
Et plus moi, consommable.
Ouais, mais moi je suis pas insensible à ça parce que je fais des chansons et donc on est de toute façon quand on est un chanteur. Pop avec un petit peu des idéaux quand même, une volonté de pas complètement se compromettre. On est quand même soumis à des pressions de son entourage, des gens avec qui on travaille, qui sont des pressions des fois bienveillantes parce que tout le monde veut votre bien.
Si on veut que vous alliez vers les gens. L'artiste.
Oui, bien sûr, c'est moi l'artiste et en fin de compte c'est moi qui ai le dernier mot. Mais je peux être moi-même tenté de mettre un peu d'eau dans mon vin à un moment donné. C'est clair, pour aller vers les gens. Et après, je peux faire machine arrière, le regretter ou m'en réjouir. Je travaille dans un domaine où J'ai jamais considéré que une chanson devait absolument parler au plus grand nombre. Ça, c'est un truc qui m'a toujours été étranger. Mais par contre, quand on a une chanson dont on sent qu'elle a le potentiel de toucher beaucoup de gens, on va pas aller vers la difficulté, on va chercher à clarifier son propos. Et ça, c'est le paradoxe un peu permanent de la pop, quand on est justement, quand on veut pas se livrer à un art qui est du tout venant, en quelque sorte, et justement d'un art industriel, de parvenir à quand même à aller vers les gens tout en ne se trahissant pas, tout simplement.
Le chemin est étroit, comment faites-vous pour l'emprunter?
Le chemin est étroit et des fois il est semé d'embûches et puis on se gamelle. et puis il y a des moments, tout simplement, il y a des cycles, il y a des moments où j'ai envie d'aller vers les gens et puis il y a des moments où j'ai envie de ne me préoccuper que de ma propre expression sans penser à quiconque. C'est-à-dire qu'au moment où j'écris, je pense pas aux gens, je pense à mon art. Et à ce que j'ai envie d'y mettre. Quand vient l'étape de présenter, de commencer à penser à présenter son travail, j'organise quand je constitue un disque, par exemple, lors des morceaux, de façon à ce que le disque soit le plus accueillant possible, indépendamment de son propos.
Le plus accueillant possible, Dominika, ça veut dire que c'est le plus intérieur possible, le plus sincère, le plus loyal. Je pense à ce thème de la fragilité qui parcourt.
Ouais.
Toute votre existence artistique depuis qu'on a commencé à écouter vos chansons.
Oui, alors la loyauté, on peut pas se prévaloir soi-même d'être loyal. Et je vous dis, moi, je considère que sans me compromettre, par moments, oui, je fais des concessions. Je fais des concessions et la fragilité, c'est ça aussi. La fragilité de l'art, c'est ça. C'est dans un cadre un petit peu, on va dire, industriel, parce que voilà, moi je travaille avec une maison de disques. Et on me donne de l'argent pour faire des disques et puis on me demande pas de compte, mais voilà, il faut que ce soit.
Vous faites de l'autocensure par rapport au mécanisme d'industrialisation.
Non, je fais pas l'autocensure, non. Mais par moment, je sais que quand j'ai une chanson qui peut avoir aller vers les gens, comme je vous disais, je vais faire en sorte aujourd'hui de ne pas pas ruiner ses chances d'accéder aux oreilles du plus grand nombre. Avant, j'avais ce snobisme en fait de vouloir absolument contrevenir à ça dès lors que je sentais que quelque chose pouvait advenir, que ça pouvait toucher plus de gens. J'avais un mouvement de recul. Aujourd'hui, je suis pas du tout dans cette démarche là.
Pourquoi ?
Parce que j'ai vieilli. Parce que ça me semble être une perte de temps que d'essayer de se couper des gens. Et que, au contraire, plus on va vers les gens, plus des sensibilités différentes se manifestent, plus on a de commentaires complètement différents sur son propre travail. Les commentaires des auditeurs, c'est souvent le plus éclairant pour suivre sa propre voie après. C'est-à-dire, en un mouvement de rejet ou de, au contraire, de ce qu'appelle dans son livre Agnès Guéraud, par rapport à la négativité. C'est-à-dire qu'on se construit et on construit son art en négatif à des choses qu'on refuse. À un moment donné, je crois, ne pas trahir votre pensée. ou au contraire, tenir compte d'observations qu'on me fait. On me dit, tiens, c'est par exemple le fait de parler de certaines choses d'une certaine façon, d'être plus clair ou plus opaque dans son propos textuel, la façon dont les gens le perçoivent, m'en parlent, ça peut me donner des idées. Ça peut me donner des idées. Tiens, si je poursuivais un petit peu cette voie, si je creusais un petit peu dans cette voie-là, ou au contraire, je m'en éloignais. Et c'est les auditeurs c'est les commentaires. Et plus on a de commentaires, plus il y a d'auditeurs, et plus vous avez des chemins qui se dessinent, en fait.
Vous avez dit tout à l'heure, Dominika, que vous étiez un chanteur pop. C'est quoi un chanteur pop?
Alors un chanteur pop, j'ai l'impression que les chanteurs pop souvent travaillent déjà globalement dans leur majorité sur la consonance en fait, et non pas sur la dissonance. Il y a très peu finalement la pop, on sait au sens large, dans l'ouvrage d'Agnès Guéraud, il en est question. Il y a aussi les musiques voilà où il y a des frottements, des dissonances, etc. Mais on est dans un art où on va chercher avant tout la consonance. On peut chercher les frictions, on peut chercher les aspérités, mais
mais ça sera toujours beaucoup moins âpre ou dérangeant qu'une œuvre de Schoenberg ou de Berlioz, enfin pour nos oreilles. Voilà.
Oui, je crois qu'on a cet élan toujours, enfin de quand on fait de la pop, moi j'appelle ça dans le bouquin l'utopie de la popularité. On vise quelque chose qui serait immédiat, mais qui serait vrai. C'est-à-dire pas des sucreries juste pour attirer les gens, non, quelque chose qui les ravirait instantanément et qui serait totalement artistiquement satisfaisant pour nous. Et je crois, moi, pareil, enfin, j'ai envie de cultiver mon art et d'aller vers des dimensions qui sont pas forcément les plus pop au sens où ça pourrait passer, sur Europe 1 ou sur France Inter. Mais et pourtant, à chaque fois que je fais un disque, j'ai toujours besoin d'essayer de faire un tube, quoi, parce que j'ai un immense respect pour la forme du tube. La forme au sens artistique du terme. Enfin, je crois que les grandes œuvres, les chefs-d'œuvre de la pop sont des tubes.
Je vous propose d'écouter la voix de Pierre Boulez à propos du silence dans l'écriture de la musique. C'est une archivina du 4 juillet 2007.
Mais si on disait, si vous n'entendez pas intérieurement, vous n'entendez pas non plus directement ce qu'on vous joue, vous confondrez. Et je trouve justement que le silence intérieur, ou en tout cas la séparation avec le monde, est quelque chose de capital. Autrement, vous n'arriverez jamais à entendre ce que vous exprimez. Et c'est là une de mes observations sur les partitions. Vous dites, comment est-ce que vous avez le flair, il y a bien sûr le flair, très petit pourcentage. Vous avez l'écriture, qui a un beaucoup plus grand pourcentage, et vous avez le troisième ingrédient qui est principal, est-ce qu'il a entendu ce qu'il a écrit ou non. Et vous voyez à l'écriture s'il a entendu ou s'il n'a pas entendu.
Alors on vient d'entendre les propos de Pierre Boulez qui, je le rappelle, était compositeur, chef d'orchestre, grand artiste, grand intellectuel de la musique. Par rapport à ce qu'il vient de dire, ce silence intérieur, vous l'éprouvez aussi, Dominique A?
Je le formulerai peut-être pas en ces termes-là, mais effectivement, il faut chercher sa voix, tout simplement profonde, enfin intime, pour. Mais je crois qu'elle, j'ai l'impression, en tout cas pour moi, que ça vient, ça se révèle à des moments où je ne vais pas la chercher, en fait, en quelque sorte, elle se manifeste et y a une nécessité. Il y a une nécessité qui naît et qui est toujours extrêmement déstabilisante parce que...
Je ne cherche pas, je trouve.
Et après, on cherche. C'est-à-dire que c'est comme si on venait nous trouver et qu'après, il fallait chercher. Et c'est marrant d'entendre Pierre Boulez, c'est vrai, parce que c'était un grand contempteur de la musique populaire. Hein.
D'ailleurs, là, il insiste sur l'écriture.
Oui, tout à fait. Oui, c'est à partir du moment, à partir du moment où c'est pas écrit, c'est pas viable. Bon, c'est comme ça. C'est une façon de voir les choses. Mais c'est vrai qu'on peut.
Mais il y a toutes les musiques orales traditionnelles quand même qui font partie d'un immense continent de la musique.
Oui, bah bien sûr, oui, tout à fait. Mais ce qui est marrant, c'est qu'il peut y avoir justement, on peut avoir, j'entends ce qu'il dit et je me dis, oui, tout est très juste. Et c'est vrai que ce sont des approches musicales complètement différentes entre un artiste pop et un artiste comme Pierre Boulez. C'est deux mondes totalement dissemblables, mais qui fonctionnent à la base sur les mêmes nécessités. Et les mêmes sensations d'écoute de soi-même, quoi.
Agnès Guéraud, est-ce que tout à l'heure Pierre Boulez a dit, est-ce que quelqu'un qui écrit de la musique comprend ce qu'il a composé en quelque sorte?
Ah ben,
celle-là, pas forcément.
Pas forcément, surtout en pop. Là, on est dans un modèle chez Boulez où, en effet, il y a une maîtrise, un idéal comme ça de la conscience de l'œuvre où vraiment l'artiste sait exactement ce qu'il fait parce qu'il maîtrise l'écriture musicale, parce qu'il maîtrise les lois de la composition, les lois de l'harmonie. Enfin, il y a vraiment un idéal comme ça très du côté de la maîtrise, tout simplement. Et c'est vrai que la pop fait un peu exploser tout ça, y compris alors du côté de la maîtrise instrumentale. Il y a des gens qui vont dire les synthés, c'est pas des instruments, ça fait des sons alors que les gens savent pas jouer. Et oui, il y a beaucoup de choses géniales ont été inventées avec des gens qui savaient pas vraiment en jouer mais qui expérimentaient sur ces machines. Donc là, toute cette esthétique qu'on trouve dans la musique populaire enregistrée, que celle du chant de la machine aussi, de laisser la machine jouer et tout à coup être dans un climat sonore qui nous inspire. Tout ça, c'est à mille lieues d'un modèle comme ça, du modèle de maîtrise qui est proposé par des gens comme Boulez, mais aussi comme Adorno, parce qu'ils ne croient qu'en l'écriture et il y a une espèce de rapport un peu jaloux à la maîtrise. Hein. C'est j'ai appris pendant des années au conservatoire, donc c'est pas un petit merdeux qui chante même pas juste qui va m'apprendre ce que c'est qu'un chef-d'œuvre musical. Et ça, la pop, tout à coup, elle ouvre le royaume de l'art à n'importe qui, quoi. Des gens qui ont la voix brisée, qui chantent pas très juste, mais voilà, il y a une très belle chanson de Dominique sur Gisors, hein, ce chanteur, voilà, qui a une horrible voix, hein, dit Dominique. Et dans sa chanson, et en effet, je me rappelle plus du titre d'ailleurs de
la Gisors. Chanson s'appelle Gisors.
Oui, toi, ouais. La chanson s'appelle Gisors, mais la chanson de Gisors,
ah, partir,
non, partir, voilà. On a envie que la voix parte et puis en même temps on a envie qu'elle revienne parce qu'elle est fascinante évidemment. Et il n'y a que le microphone qui pouvait capter ça et l'enregistrement et nous donner comme ça une expression de l'humanité, bah oui, qui est pas complètement prévue dans les notes, qu'elle soit tonale ou atonale, quoi. Tout à coup, c'est quelque chose qui se passe dans le régime de la sonorité, mais qui n'est pas un régime maîtrisé, pas un régime écrit. Et ça, voilà, les grands défenseurs de la musique savante ont un peu du mal à l'entendre.
Oui, c'est le thème de l'expressivité, en fait, tout simplement.
Tout à fait.
C'est ça, c'est le refus d'une certaine expressivité qui est au cœur des musiques populaires. En fait.
Voilà.
Enregistré.
C'est aussi l'abandon de la maîtrise, et ça c'est un thème que vous développez à l'intérieur de ce livre passionnant qui s'intitule « Dialectique de la pop » Agnès Guéraud. Vous venez de l'exprimer en disant que ben, y a les machines qui permettent l'expressivité, qui permettent la reconnaissance, mais il y a aussi un autre mouvement qui s'est fait dans les 50 dernières années, c'est-à-dire avec l'essor des nouvelles technologies, et bien quelquefois la machine a pu être au premier plan par rapport à la centralité du désir et de la décision artistique de l'artiste.
Alors, oui, non, mais c'est
qu'en est-il effectivement? Est-ce qu'il y a débordement? Est-ce qu'il y a abandon?
Non, c'est jamais définitif. Moi, je refuse tout discours décliniste en me disant « Ah oui, autrefois, c'était mieux, puis maintenant, c'est la catastrophe. » Ça, c'est Adorno est un peu comme ça, parfois. On ne peut plus, après Auschwitz, on ne peut plus faire de poèmes. Non, je pense qu'on peut continuer à faire des poèmes. D'ailleurs, lui-même le dit ensuite. C'est quelque chose qu'on peut éprouver. Moi, j'ai des synthés chez moi quand je compose, et des guitares et tout ça. Et il y a une fonction des synthés qui s'appelle celle de l'arpégiateur. Donc, ça produit des arpèges automatiquement. Donc, on peut proposer comme ça une suite de notes, on propose la suite de notes qu'on veut et le type d'harmonie qu'on souhaite. Enfin, voilà, il y a plein de paramètres qu'on peut décider, mais souvent le synthé fait des choses très intéressantes sans qu'on lui ait demandé et sans qu'on sache ce qui se passe. Mmh. Or, ça, c'est très ambivalent parce que j'ai un morceau qui s'appelle Adieu l'enfance qui a été composé comme ça, j'ai été emporté comme ça par la proposition de la machine et puis tout à coup elle est creusée dans quelque chose au contraire de très personnel et d'une souffrance enfantine, donc voilà les deux ont
vous avez suivi la machine,
on peut se rencontrer, alors je l'ai suivi puis ensuite je l'ai guidé, c'est un peu comme dit Dominique, ça nous arrive et puis ensuite on creuse, quoi,
on se laisse déborder. Mais voilà. Volontiers.
Et voilà. Vous, Dominique, mais comment votre pratique artistique a-t-elle évolué par rapport justement aux instruments?
Ben, je suis dans des va-et-vient par rapport à ça, c'est-à-dire que parce que le cas dont parle Agnès vis-à-vis de sa chanson, moi j'ai connu aussi avec ma première chanson vraiment diffusée, c'était Le Courage des Oiseaux, c'est pareil, j'appuyais sur le bouton et y avait une suite d'accords qui naissait et c'est la voix et c'est le propos qui ont fait le travail en quelque sorte, c'est ça qui a été déterminant et par rapport à ça, moi j'ai jamais eu de je me suis jamais donné de cadre, en fait. J'ai jamais accordé de valeur supérieure à de la musique qui serait totalement jouée. Pour moi, la machine, c'est un outil, comme la guitare est un outil. Et tout dépend du degré de débordement qu'on veut bien lui accorder, en quelque sorte, si j'ose dire. Quoi. Il est assez simple de reprendre le contrôle sur la machine. Moi, je ne crois pas du tout qu'on soit inféodé à elle.
Voilà. Et parfois, on sent que c'est trop la machine qui parle aussi. On sent que ça va pas. On sent qu'une chanson a pas d'âme et qu'on s'est pas emparé du truc avec le même désir. Donc, il n'y a pas vraiment de règles de ce point de vue-là, mais si ça se rationalise trop, c'est-à-dire si tout à coup, en effet, c'est l'algorithme qui travaille et qu'il n'y a plus tout à coup quelqu'un qui s'empare là de ces sons qui arrivent, ça échoue, je pense. Ça reste une magie quand même.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez le choix musical de Dominique A, Terre Noire, je bois tout seul. C'est vrai ça ?
Ah, ça c'est vrai, mais pas que.
Je vais boire moi tout seul, histoire de voir ce qui m'arrive. L'automne a des parfums heureux. En fait, moi, je sais jamais trop. Là où je vais, ce que je veux. Dans la vie, ce que je vaux. Je bois tout seul, je bois tout seul, je bois tout seul. Et que tourne le bitume, tourne, tourne le bitume. Tourne, tourne le bitume. Verse-moi ton bar ce soir. Que je me renverse, chérie. Vers le point le plus noir, le plus lointain de la nuit. Je parle aux filles dans le brouillard, à leur parfum heureux d'automne. Je suis mes anges du hasard, vers des dancings qui résonnent. Moi tout seul, toi tout seul, toi tout seul. Et que tourne le bitume, tourne, tourne le bitume.
Depuis le début de l'émission, en ce 1er janvier 2019, nous parlons de l'importance de la musique. Vous nous avez dit, Agnès Guéraud et vous Dominique A, à quel point la musique, ça n'a pas été une décision volontaire de votre part, c'est arrivé dans vos vies et ce depuis la haute enfance. Est-ce que vous pensez que la musique peut aussi avoir des effets vénéneux ? Et là, je pense à un livre de Pascal Quignard qui s'intitule « Haine de la musique » et qui raconte de manière magistrale comment la musique, dans le siècle précédent, le XXe siècle, a pu mener à des désastres, a pu dominer des hommes. Qu'en pensez-vous, les philosophes, Agnès Guéraud ?
C'est jamais l'art le plus important, la musique, dans l'histoire de la philosophie.
Ah bah ça, c'est ce que vous dites.
Ouais, mais dans l'histoire de la philosophie, chez Platon, faut l'éliminer. Chez Hegel, c'est la poésie plutôt qui l'emporte. Et puis bon, finalement, c'est quand même la philosophie à la fin qui gagne. Mais donc la musique, il y a que Schopenhauer qui vraiment en fait une expression du monde comme volonté. Donc enfin, qui est la représentation du monde comme volonté. Donc lui, c'est un peu le seul qui fait de la musique vraiment une
espèce
de substance métaphysique. Bah Nietzsche, il est ambivalent, quoi. Il est fan de Wagner et puis ensuite il le hait. Enfin, donc c'est pas tout à fait ultime pour Nietzsche.
Pourquoi les philosophes, à votre avis, ont-ils eu si peur de l'expression artistique qu'est la musique ?
C'est l'envoûtement. C'est la figure. Vraiment, c'est l'image de l'envoûtement. Il y a cette scène qui est très célèbre, voilà, dans la flûte enchantée, hein, où toutes les bêtes de la forêt se rassemblent autour de Tamino qui joue de la flûte. Et c'est des bêtes, c'est-à-dire c'est pas, et puis, enfin, tous les individus, on ne fait pas appel avec la musique à la rationalité des individus. Et voilà, quelqu'un comme Boulez, par exemple, ou comme Adorno, c'est des gens qui ont pensé qu'au XXe siècle, on pouvait plus compter sur la puissance de séduction de la musique et donc qu'il fallait faire appel au cerveau des gens quand la musique résonnait. Or non, la musique elle convoque aussi le corps, elle convoque aussi les affects et là encore on perd l'idée, cet idéal de maîtrise et d'autonomie est perdu. Donc c'est pas tant que la musique est mauvaise ou c'est pas tant qu'elle est empoisonnée, mais c'est qu'elle est dangereuse quoi. Donc c'est-à-dire que c'est un poison qui ça peut être aussi une solution, enfin comment dire une panne assez, mais aussi un poison. C'est ça, c'est pas tant que c'est purement quelque chose de mauvais, mais ça, c'est que ça peut l'être. Et c'est ça qui est absolument à la fois fascinant pour ceux qui l'aiment et effrayant pour ceux qui, voilà, pour ceux qui la redoutent.
Ou qui la subissent pour certains dans des phases noires et des, hélas, tragiques de notre existence pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc la musique oui. serait pour vous, Agnès Guéraud, la part animale de notre existence.
Alors pas seulement animale, c'est aussi peut-être la part qui transcende aussi l'opposition entre part intellectuelle et part sensible. Mais c'est ça qui fait peur. De mon point de vue, c'est au contraire quelque chose de totalement supérieur, qui est peut-être parfois plus fort que nous, oui, en effet.
Devons-nous avoir peur de vous, Dominique A?
J'espère pas. J'espère pas. Non, la musique, c'est là où elle est dangereuse, c'est qu'elle peut, participer tout simplement de façon active au soft power. C'est ce qu'elle fait. En tout cas, c'est la musique qui a aidé l'Amérique à prendre autant de place. Enfin, les valeurs américaines, libérales, dans nos vies, en fait. Hein, et ça continue. La façon dont la musique se diffuse est tout à fait raccord avec la façon dont la société libérale se perdure, se développe. Il y a de nombreuses ramifications et de nombreux liens. Donc en ça, oui, elle peut être dangereuse.
Ce n'est pas par hasard qu'on entend de la musique dans des endroits où on a quelque chose à nous vendre.
Oui, bien sûr, oui. Oui
et
oui,
que
oui.
Le silence devient de plus en plus rare et précieux.
Mmh. Bah oui, oui, oui. Le silence, c'est un combat et c'est une part de la musique prépondérante.
Oui.
C'est pas aussi les moyens de diffusion de la musique, les formats musicaux, la compression du son bannit d'autant plus le silence. C'est-à-dire qu'on est dans des tunnels de son. On n'est plus dans un rapport à la dynamique, enfin beaucoup moins. Alors plein de musiciens se battent contre ça, justement contre ce qu'on appelle la compression, le fait qu'on fait rentrer toutes les informations sonores dans des tunnels très étroits en fait, où les fréquences se perdent, les très hautes fréquences, les basses fréquences. Donc les musiciens se battent contre ça avec l'idée de la dynamique, le retour à l'analogique, ou en tout cas la volonté de préserver un son.
On le voit bien avec la mode revival des vinyles.
Oui, oui, c'est ça. Ça participe de cette résistance. Là, parce que
c'est pas de la nostalgie.
Non, oui, parce que...
je perçois pas comme ça, moi. Mm. Je perçois pas comme ça. Je n'ai pas cette sensation que c'est du passéisme ou simplement une résistance à. Oui, une inféodation à un certain type de son, tout simplement, et qui est
étouffant. À une homogénéité du son.
Oui, et quelque chose d'étouffant, et quelque chose qui nous maintient un petit peu sous cloche, sous pression. Ça peut paraître un peu caricatural, mais j'ai cette sensation, moi, quand je rentre dans des commerces, dans une autre commerce, vous rentrez dans un... Vous passez de magasin en magasin, des enseignes, vous avez le même type de son en permanence, le même type d'agressivité, et de cette sensation de plénitude du vide, j'ai envie de dire, quoi. C'est plein, et en même temps, c'est plein de vide. Moi, ça me fait sortir d'un magasin. Mmh. Mais il y a plein de gens pour qui c'est juste un... qui n'ont pas ce rapport-là.
Oui, c'est ça rassure.
Le paradoxe, c'est que la musique,
Agnès Guéraud.
La musique dangereuse, c'est celle qui est là pour qu'on l'écoute pas. C'est justement celle qui remplit le vide, mais en un sens, voilà, c'est vraiment la banalisation de la musique. Or, le vinyle, entre autres démarches, mais c'est aussi l'idéal d'une écoute active. C'est-à-dire que, voilà, vous allez mettre votre vinyle et puis vraiment écouter ce qui se passe, parce que vous avez déplacé votre corps pour lancer cette musique et je pour moi, c'est le voilà, c'est le moment du danger dans la musique, y compris de la manipulation politique. C'est quand la musique devient est là finalement pour qu'on ne l'écoute pas et pour porter autre chose qu'elle-même et pour que le corps suive sans trop s'interroger, quoi, sans trop qu'on soit amené à se demander ce qui se passe ou ce qu'on est en train de nous faire avaler. Donc moi, les moments de souffrance avec cette musique, en effet, omniprésente, c'est oui, c'est ça, c'est dans un restaurant quand on lutte pour ne pas écouter la musique, pour pouvoir s'entendre discuter.
Et c'est fou même, je trouve, d'aimer la musique en fait encore aujourd'hui, puisqu'elle elle est tellement là tout le temps, et on va chercher ce qu'elle on va chercher la musique qui va justement nous éloigner de la musique telle qu'on l'entend globalement. Et c'est fou qu'on ait encore ce désir là. Parce qu'on pourrait justement avoir tout simplement envie de silence.
La musique, c'est aussi l'ordonnancement de nos propres mémoires. On se souvient des moments passés grâce à des musiques qu'on a écoutées. On se souvient de nos amours grâce aux chansons sur lesquelles nous avons dansé. On se souvient des grandes émotions grâce aux sons qui tapent encore dans nos cœurs aujourd'hui. Je vous propose d'écouter la voix de Gilles Deleuze dans son fameux dictionnaire, son abécédaire avec l'air parné de 96, qui va parler du concept de ritournelle.
La ritournelle, c'est un petit air. Tralala, la la, tralala. Quand est-ce que je dis tralala? Je fais de la philosophie. Voilà. Je fais de la philosophie, je me dis quand est-ce que je fais que je chantonne. Je dis, je chantonne en trois occasions. Je chantonne quand je fais le tour de mon territoire et que j'essuie mes meubles. Il y a un fond radio. Bon. C'est-à-dire quand je suis chez moi. Je chantonne quand je ne suis pas chez moi et que j'essaie de regagner le chez-moi, quand la nuit tombe, l'heure de l'angoisse. Je cherche mon chemin et je me donne du courage en chantant tralala. Je vais vers mon chez-moi. Et puis, je chantonne lorsque je dis « Adieu, je pars » et dans mon cœur, j'emporterai. Ça aussi, tout ça, c'est la chanson populaire. « Adieu, je pars et dans mon cœur, j'emporterai. » Lorsque je sors de chez moi pour aller ailleurs, mais pour aller où? En d'autres termes, la ritournelle, pour moi, est absolument liée au problème de territoire et de sortie ou d'entrée dans le territoire, c'est-à-dire au problème de déterritorialisation.
Quand chantonnez-vous, honneur aux femmes, Agnès?
Tout le temps.
C'est pas seulement en époustant vos meubles comme Gilles Deleuze.
Non, je tout le temps. Je cherche, à la fois parfois je cherche activement des paroles de chansons, des mélodies, puis parfois je cherche pas et je me rends compte que je chantonne. Donc si c'est un territoire, c'est carrément celui de mon existence la plus concrète, quoi, la plus constante.
Depuis que vous êtes mère de famille, chantonnez-vous plus?
Oui, je lui adresse beaucoup de chansons, tout le temps inventées. Alors il paraît que c'est pas bien parce qu'ils aiment la répétition, paraît-il, les enfants, donc il faut faire toujours la même chose.
Je confirme.
C'est vrai, donc, ouais, pour le moment j'invente beaucoup trop, mais peut-être que j'invente pas tant que ça en fait, peut-être que c'est assez répétitif finalement.
Quand chantonnez-vous, Dominique A?
Intérieurement, un peu tout le temps, et c'est ce qui est génial en fait avec les chansons, c'est le seul avec le, je dirais, le poème qu'on se récite, si tant est qu'on connaisse des poèmes par cœur, parce qu'on est, il y en a finalement, moi j'en ai pas beaucoup en tête, et de moins en moins les gens ont des poèmes dans la tête, parce que les chansons ont pris cette place-là. Ce qui est génial, c'est que c'est le seul art qui permette finalement qui est là. C'est-à-dire, vous avez une chanson en tête sans même l'entendre, c'est là. Vous êtes en présence de la chanson sans l'entendre, c'est-à-dire sans que l'essence essentielle, Louis en l'occurrence, soit pas monopolisée, je trouve plus le mot, enfin, soit aidez-moi,
mobilisée,
mais c'est là, ça peut être là dans le silence, et c'est le seul, finalement, c'est le seul art qui permet ça, c'est-à-dire que on ne déroule pas un film dans sa tête, on ne voit pas un spectacle dans sa tête, on a des images. Non, c'est la chanson qui permet ça. Et ça, je trouve que c'est une de ses forces, en fait. C'est cette possibilité d'être avec nous partout, en toutes circonstances. Et de nous isoler aussi.
Alors c'est le moment des cadeaux, des derniers cadeaux. D'abord, bonne année à vous deux, à tous les auditeurs et à toutes les auditrices. Et comme cadeau, justement, pour les auditrices et les auditeurs, si vous chantiez chacun d'entre vous un petit bout a cappella.
Je sais pas, vous voulez que je chante quoi?
Ce que vous voulez.
Mon Dieu. Alors ça.
Moi aussi.
Ouais, alors c'est avec les triards de chansons qu'on a en tête. Mon Dieu. Ah, au dépourvu, là, ma tête se vide. Agnès.
J'allais chanter une comptine en espagnol, parce que ouais. Je chante ça, mon petit. Attention, vous êtes prête, Laure? Duerme, duerme, negrito, que tu mamá está en el campo, trabajando para ti, trabajando sí, trabajando duramente, trabajando. Te va a traer muchas cosas para ti, te va a traer muchas cosas para ti. Duerme, duerme, negrito. Que tu mamá está en el campo, negrito.
Je vais embrayer sur aussi une chanson espagnole.
Et qui parle d'esclavage en même temps. Ça me rappelle les origines de la musique populaire.
Dans le livre de Daniès, elle cite Porque te vas, une chanson que je connais juste le refrain. Todas las promesas y mi amor serán contigo. No olvidarás. No olvidarás.
Et là, junto a la estación lloraré igual que un niño. Porque te vas.
Porque te vas.
Ben, merci beaucoup. Hein. C'était vraiment un super cadeau. Merci infiniment
merci
à vous deux.
Oh, merci à Hispanique, hein, tous les deux.
Ouais, c'est ça.
Était muet pourtant, à peine froissé les draps blancs, mais j'avais oublié que tu m'aimais autant. Pas de signe d'emportement, ni de regard au firmament. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais. J'avais laissé filer quelque chose d'évident. C'était perdu dans les fossés, égaré dans l'herbe des champs. Oui, j'avais oublié que tu m'aimais autant. Oui, j'avais oublié.
C'était « J'avais oublié que tu m'aimais tant », évidemment, de Dominika. Merci à Agnès Guéraud pour son livre magnifique qui s'intitule « Dialectique de la pop » qui vient de paraître aux éditions de La Découverte. Merci à Dominique A qui est en tournée dans toute la France. Toutes les dates, vous les retrouverez sur notre site. Et son nouvel album qui s'intitule « La fragilité » en partenariat avec France Inter.
Merci à Élodie Royer, Anne-Sophie Dazard et Antoine Joubert qui ont préparé cette émission. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Et merci à Lilian Allôme qui, comme chaque soir, a réalisé cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec Mishka toujours aussi vaillant, quelles que soient les circonstances, qui n'a pas fait trop la fête, je l'espère. Mishka Assayas, c'est après le prochain journal de la rédac pour son Very Good Trip.